Bonjour à tous. On va continuer notre série d'enseignements qu'on avait commencé sur la Bible. Alors, le premier enseignement qu'on a eu, c'était sur le livre lui-même, donc les Saintes Écritures, sa richesse, sa profondeur, aussi le fait qu'elle révèle notre Sauveur Jésus-Christ. Et ensuite, on avait vu que les Saintes Écritures elles-mêmes nous enseignent qu'on peut faire au moins 5 choses avec les Saintes Écritures. On avait vu qu'on pouvait les écouter. Alors, c'est ce que vous faites ce matin. Et on avait vu une leçon sur le fait qu'on ne doit pas écouter les Saintes Écritures, la Bible, n'importe comment. Il y a des manières d'écouter la parole. Donc, on avait déjà vu cette leçon-là. On avait vu aussi la leçon comment lire la parole. Alors, c'est exactement la même chose. On ne lit pas la parole n'importe quelle façon. Il y a des manières de le faire. On avait également regardé cette leçon-là. On est rendu à la troisième chose qu'on peut faire avec les Saintes Écritures, donc l'étudier. Moi, je suis sauvé depuis 1979, alors je pense que je peux dire avec certitude que malheureusement, j'ai constaté que dans la plupart des églises dans lesquelles j'ai été, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui passent beaucoup de temps à étudier la parole. On l'écoute, on la lit, mais consacrer un temps particulier dans notre horaire, ce qui est souvent chargé, peut-être un peu trop chargé, on passe peu de temps à étudier la parole de Dieu. Pourtant, les Écritures nous invitent à le faire, et non seulement nous invitent à le faire, mais nous commandent de le faire. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens négligent d'étudier la parole de Dieu? D'après moi, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est probablement la paresse. On est paresseux, donc la paresse est un péché comme un autre. Et même si on se l'est fait dire, on ne passe pas beaucoup de temps à le faire. La deuxième, c'est probablement parce qu'on se fie trop sur les enseignants que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur a donné des enseignants à son Église, des pasteurs et des personnes qui enseignent la parole de Dieu. C'est correct de les écouter. C'est correct d'assister à tous les cultes auxquels on peut assister, parce qu'on apprend à chaque fois. Cependant, je pense qu'il est nécessaire que chaque chrétien se donne un temps dans sa journée pour étudier la parole de Dieu, parce que c'est pas la même chose lire puis étudier. Alors, la dépendance qu'on appelle passive, il y a quelque chose de correct là-dedans. Quand vous vous asseyez puis vous écoutez la parole de Dieu passivement, c'est correct. Cependant, l'étude, ça implique qu'on soit actif et ça implique qu'on ait une méthode. On étudie quelques sujets qu'on étudie. Il y a des personnes ici qui vont à l'université, il y a des enseignants. Alors, vous savez tout de quoi je parle. Quand on veut étudier quelque chose, il faut consacrer du temps, il faut avoir une méthode, il faut avoir des outils. Alors, le travail qu'on va regarder ce matin, c'est pas l'étude de la parole de Dieu. On va juste regarder pourquoi on devrait le faire. Alors, ces études-là, ils vont faire partie du cours Formation du disciple. C'est ce que je vous ai déjà donné. Mais on n'ira pas en profondeur dans les différents aspects. On va les voir en profondeur lorsqu'on va arriver à comment le faire. Là, je veux juste regarder ce matin ce que la parole de Dieu nous dit sur la nécessité d'étudier. Juste le pourquoi on doit l'étudier et on verra le comment. Ça va probablement aller à l'après les fêtes qui vont se donner dans le cadre des leçons qu'on étudie le dimanche matin avant le culte ou dans le cadre qu'on va donner ceux du mercredi soir. Alors, on va regarder pourquoi étudier le trésor qu'est la Bible. Je pense que la première raison, c'est tout simplement la connaissance de la personne et de l'œuvre de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, Paul dit à Timothée, qui était un pasteur, mais je pense que le passage, même si ici s'adresse directement à un pasteur, peut aussi s'appliquer à quelque chrétien que ce soit. Il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. » Alors, il y a plusieurs idées à l'intérieur du verset, mais je pense qu'une des idées à retenir, c'est qu'il dit « Efforce-toi ». Donc, quand on veut étudier la parole de Dieu, il faut faire un effort. Première chose. Deuxièmement, il lui dit de faire cela, mais il y a des raisons pour lesquelles il lui demande de faire ça. Il lui dit « comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de Dieu ». Comment quelqu'un peut-il dispenser droitement la parole de Dieu s'il ne prend pas du temps à l'étudier, à la lire, à l'écouter, à la méditer, à la mémoriser? Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17, un verset classique sur la parole de Dieu, Paul dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et il dit ensuite, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. » Alors, la parole de Dieu, c'est utile pour l'ouvrier. Il dit, « afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, ça a le but, l'étude des Saintes Écritures, dans ces quatre aspects-là, ça change des choses dans nos vies, mais ça a un but. Ça a un but, c'est notre accomplissement. Quelqu'un ne devient pas un maître en français sans qu'il ait étudié les règles. Quelqu'un ne devient pas un maître en informatique sans qu'il ait pratiqué et étudié les choses. Mais c'est exactement la même chose dans les choses du Seigneur. Il faut prendre du temps, plonger, mettre beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts, de prières pour étudier la parole de Dieu dans le but qu'on soit un homme accompli et qu'on soit propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur ne nous fait pas apprendre des choses juste dans le but qu'on apprenne des choses dans notre tête. Ça commence par en haut, mais ça doit descendre dans le cœur, ça doit descendre dans les mains, dans les pieds, dans toute la personne. L'étude de la parole de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un exercice intellectuel. C'est un des meilleurs moyens de connaître Dieu avec plus d'acuité et de profondeur. Si quelqu'un dit qu'il connaît bien Dieu, et qu'on lui pose des questions sur plusieurs livres de l'Ancien Testament, plusieurs livres du Nouveau Testament, dans chaque livre, le Seigneur manifeste, révèle quelque chose sur sa personne. Alors, c'est sûr que plus on étudie la Sainte Parole de Dieu, plus on la lit, plus on l'écoute, plus on la mémorise, plus on la médite, plus on devient des personnes que le Seigneur peut nous utiliser, comme ça dit, propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur peut nous utiliser dans son œuvre. La tendance actuelle dans les églises est de se fier passivement et uniquement aux enseignants, et cette négligence a de graves conséquences. Quand on dit, je ne suis pas en train de vous dire là, que le Seigneur n'a pas sa place pour les enseignants, le Seigneur n'a pas sa place pour ceux qu'il donne pour prêcher, mais il demande plus. Il demande qu'on prenne du temps pour étudier sa parole. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? On lit ça dans Hébreux. Il y a, je le sais par expérience, des personnes qui n'ont jamais, et des fois après plusieurs années de vie chrétienne, qui n'ont jamais lu leur Bible d'un couvert à l'autre, du premier verset de la Genèse au dernier de l'Apocalypse, qui est une très grande faute pour un chrétien. En plus, certains chrétiens n'assistent pas à tous leurs cultes. Alors, quand quelqu'un n'assiste pas à tous ses cultes et qu'il ne lit pas sa Bible à moitié, et non seulement il ne la lit pas, mais il ne l'écoute pas, mais en plus il ne l'étudie pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un chrétien, je dirais, mais je dirais que ça fait un chrétien faible. Ça fait un chrétien boiteux. Donc, la Bible est un des instruments par lequel nous pouvons développer notre connaissance à la fois de la personne et de l'œuvre de Dieu. Deuxième chose que la Bible nous apprend, elle nous apprend qui nous sommes. Elle répond aux grandes questions philosophiques que l'homme se pose de tout temps, de toute nation, de tout continent. Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi suis-je ici? Et où je m'en vais? La Bible répond avec profondeur et avec satisfaction à ces grandes questions-là. Tant qu'un homme ne connaît pas le Seigneur, ses réponses qu'il a à ces questions-là sont toujours fausses et sont toujours dangereuses parce qu'elles le mènent directement dans le feu éternel. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, le Seigneur dit, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Très intéressant qu'à la fin du livre de Matthieu, le Seigneur donne à ses disciples, donc c'est à nous, il nous parle à nous, là. Il ne parle pas juste aux disciples à l'époque, il nous parle à nous. Il nous dit, tout un chacun en particulier, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Quand on parle du Seigneur à quelqu'un, qu'on lui apporte le message du salut, ça ne doit pas s'arrêter là. Faire un disciple, là, ça implique que tu lui enseignes les choses qui sont dans ce livre. Et bien souvent, les chrétiens, on est négligents sur cet aspect-là. On peut des fois contribuer à amener quelqu'un au Seigneur, mais parfois, on va négliger notre devoir de prendre cette personne-là et de l'instruire d'en faire un disciple. C'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain, faire un disciple du Seigneur. C'est une chose de longue haleine. C'est qu'on a commencé en bas une cour de formation de disciples qui va comprendre au-dessus de 750 leçons. Et moi, je calcule que ces 750 leçons-là sont un solage, une base. Faut pas croire qu'après que la personne aurait entendu ça, qui va nous prendre 6-7 ans, que la personne est au-dessus, qu'elle comprend toutes les choses qui se doivent de comprendre dans la Bible. Elle a la base, elle a le commencement. Dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5, le Seigneur dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » C'est sûr que dans le contexte, on parle de Jésus-Christ. Alors, plus on va connaître la Bible, mieux on va connaître Jésus-Christ, plus on va être en mesure de l'annoncer correctement à ceux qui nous entourent. Troisième chose, donc ça va nous apprendre à connaître Dieu, ça va nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, et une des choses que les Écritures nous enseignent avec le temps, c'est qu'on est des pécheurs, on est faible, on est pauvre, on est misérable spirituellement. Et on a besoin du Seigneur pour venir combler nos besoins et nos attentes et toutes les choses qui concernent la vie, à la fois physique et spirituelle. On apprend ça avec le temps. Autre chose que les Écritures vont nous conduire, c'est le discernement de la vérité. L'étude de la Bible donne la capacité de discerner les erreurs de doctrine. Souvent, quand on discute avec des gens sur la Bible qui n'ont jamais entendu parler, les premières choses qui vont nous arriver avec, je sais, ça m'est arrivé souvent, Vous autres, les chrétiens, vous dites que vous avez la Bible, vous dites que vous avez la vérité, mais comment ça se fait qu'il y a tant de dénominations? Comment ça se fait qu'il y a tant de divisions dans ce que vous dites croire? Excellente question, qui n'est pas nécessairement facile à y répondre non plus. Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas les vérités de la Bible ne sont pas discernables? Parce que s'il y a beaucoup de positions sur le même sujet, c'est très certainement, qu'il y en a dans le groupe qui ont la vérité, qui sont, comme ils disent, « right on » en anglais, et il y en a d'autres qui sont hors la vérité. Ils ont mal compris, ils ont mal fait des enchaînements, ils ont mal fait, ils ont déduit des choses qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, ça fait mauvaise presse de dire, nous, on a, je crois, ce qui correspond le plus aux Saintes Écritures. Les Écritures sont claires sur la plupart des sujets. Pourquoi les hommes ont tant de difficultés? Pourquoi les hommes ont tant de différences les uns avec les autres? C'est sûrement parce qu'ils n'étudient pas assez les Saintes Écritures. Les réponses sont toutes là. Alors, le discernement de la vérité. Une des raisons pour lesquelles aussi, souvent, on arrive dans le milieu chrétien, dans une dénomination particulière, et je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais on acquiert des connaissances, des positions théologiques qui correspondent à une école de pensée. L'école de pensée peut être juste ou l'école de pensée peut être complètement hors champ. Alors, le danger d'arriver dans une dénomination et de ne pas étudier, j'ai vu des gens qui étaient dans une dénomination, qui en sont sortis parce qu'ils ont découvert par eux-mêmes que certains sujets n'étaient pas corrects. Exemple, quelqu'un peut avoir arrivé au Seigneur par, disons, le milieu des presbytériens. Et après une étude approfondie par lui-même, bien souvent, c'est pas les presbytériens qui vont lui enseigner que le baptême des bébés, c'est pas correct. C'est sa propre étude des Saintes Écritures qui vont arriver à lui démontrer qu'un aspect de l'enseignement qu'ils ont dans cette Église-là est faux. Et ils finissent par en sortir. Alors, ça démontre une chose, c'est qu'on a une responsabilité d'étudier la parole de Dieu pour faire la part des choses, pour étudier les sujets controversés et prendre notre propre position plutôt que de toujours suivre comme des moutons ce qui est enseigné dans une dénomination. C'est important de saisir ces choses. Alors, une des raisons pour lesquelles on se fie toujours aux enseignants, c'est qu'on se dit, ah, le sujet a sûrement été pleinement fouillé et étudié par eux. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Nous supposons, avec raison, que l'enseignement devra rendre des comptes à Dieu. Alors, on se dit, moi, j'ai pas besoin d'étudier ça, parce que celui qui m'enseigne, c'est lui qui va avoir des comptes à rendre à Dieu. C'est vrai, mais ça veut pas dire que Dieu vous en demandera pas à vous aussi. Nous supposons aussi que l'enseignant fait l'œuvre de Dieu. Ces suppositions sont souvent vraies, mais pas toujours. L'enseignant peut manquer de connaissances ou avoir subi de mauvaises influences. Les critères absolus, les Écritures nous le donnent. C'est l'examen et l'étude des Saintes Écritures. On lit dans Actes 17, versets 10 et 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Alors, on ne peut pas étudier les Écritures sérieusement sans examiner quotidiennement ce qui est écrit à l'intérieur. Autre raison qu'on a souvent une attitude passive, c'est que on suppose que l'enseignant a une meilleure préparation intellectuelle et académique que nous et que, conséquemment, il a de plus grandes capacités que nous. Ça peut être vrai, Mais le Seigneur nous demande à tous et chacun d'étudier par nous-mêmes les Saintes Écritures de manière à être capable de découvrir des vérités par nous-mêmes. Deuxième point qu'on va regarder, donc on vient de regarder pourquoi on se doit d'étudier les Écritures, mieux connaître Dieu, mieux nous connaître nous-mêmes, mieux connaître la vérité et être capable d'enseigner aux autres. Ce qu'est l'étude de la Bible? On pourrait dire la définition suivante. C'est le processus par lequel nous plongeons profondément dans le texte de manière à acquérir une meilleure compréhension dans le but de se conformer et obéir. La deuxième partie est très importante. Ça pourrait arriver que quelqu'un soit une grande intelligence et qu'il étudie les Écritures chaque jour, qu'il ait la tête remplie de connaissances théologiques. Les Écritures n'ont pas été écrites juste pour nous donner une satisfaction intellectuelle. Les Écritures nous ont été données de manière à ce qu'on applique, qu'on obéisse quotidiennement à ce que le Seigneur nous demande. Alors, une étude, ça a toujours pour but de mieux nous faire connaître Dieu, mieux nous faire connaître nous-mêmes, mieux faire connaître la vérité, mais ça a toujours un but. Le Seigneur nous prend un point, mais il veut nous transformer, comme Jean disait dans son introduction. Nous transformer, ça implique qu'il voit des choses en nous qui ne lui plaisent pas et il veut les changer. Alors, une des choses, un des buts du message de ce matin, c'est peut-être que le Seigneur, si vous n'êtes pas une personne qui étudie la Bible d'une manière régulière, c'est peut-être qu'il est en train de vous dire, « Mon fils, ma fille, tu devrais le faire. » Parce qu'il y a de grandes bénédictions de rattacher à ça. L'étude, c'est aussi l'analyse en profondeur de la Bible dans le but de nous laisser enseigner par Dieu et sur Dieu, sur sa volonté, sur son salut, et découvrir, et ici le mot-clé, c'est par nous-mêmes. Il y a toutes sortes de manières, il y a toutes sortes d'outils pour nous aider à étudier la Bible. C'est sûr que ce que vous recevez à l'Église, ça fait partie de la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui a donné des docteurs à son Église pour les enseigner. Mais ça n'exclut pas qu'il commande en même temps d'étudier par vous-même. Parce que les vérités qu'on découvre par nous-mêmes, quand elles sont vraiment solides et ancrées, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, notre attitude dans l'étude devrait toujours être dans le sens « je veux entendre ce que la Bible dit » et non pas « je veux que la Bible dise ceci ou cela ». La différence est très grande. On s'en va dans la Bible et on la laisse nous parler selon ce qu'elle dit. Alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup de dénominations, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche dans la Bible des supports à ce qu'on nous on croit. On aimerait que la Bible dise ça. Alors, on s'en va chercher des versets cités là, mais on oublie que dans d'autres places, la Bible dit autrement. Alors, c'est très dangereux que de faire des études qui ne vont pas dans le sens d'une étude inductive. L'étude inductive, c'est la plus profitable et la meilleure parce qu'elle laisse la Bible nous parler plutôt que chercher à prouver par elle et à supporter par elle nos propres enseignements et nos propres conceptions. C'est une grande différence. Troisième point, quand on doit étudier la Bible? Moi, je pense que c'est régulièrement, et idéalement, ça devrait être chaque jour. On se doit de se réserver des plages de temps dans notre horaire, et je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très chargé. Cependant, je pense que ça vaut la peine et qu'on obéit au Seigneur en faisant ça, que se réserver un temps. Normalement, je pense que le meilleur temps pour la plupart des gens, c'est le matin. Quand on est bien reposé, on peut tous consacrer un 10 ou 15, 20 minutes au Seigneur en étudiant ses Saintes Écritures. On se doit de le faire aussi dans un endroit tranquille, complètement à l'écart, pas en écoutant la radio, pas en écoutant d'un œil la télévision et en cherchant à étudier en même temps. Les jeunes font ça souvent et je pense que ça ne donne pas beaucoup de résultats. Je vais vous donner un exemple biblique des bénéfices d'une étude attentive de la Bible. On va aller voir le prophète Daniel. Le prophète Daniel avait appris, par l'étude des Saintes Écritures, que le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone pour 70 ans. Il n'avait pas deviné ça. Regardez ce que ça dit dans Daniel 9, versets 1 à 4. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Comment il avait découvert ça? Par l'étude. Il avait découvert dans le livre de Jérémie, un verset qu'on va aller voir tantôt, que le peuple d'Israël serait déporté à Babylone par Dieu pour leur désobéissance, pour leur idolâtrie, mais il savait que Dieu les ramènerait, et au moment, on va voir tantôt, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. On va un petit peu plus loin dans Daniel 9, versets 20 à 23. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans mes prières quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Qu'est-ce qu'on voit par là? On voit que quand quelqu'un se donne la peine d'étudier, il se passe quelque chose. Dieu permet que l'intelligence de celui qui étudie soit ouverte. Parce que ça dit bien, « Je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. » Et il lui dit, « Sois attentif à la parole, comprends la vision. » Comment Daniel avait appris ça? Si on va dans Jérémie 25, versets 11 et 12, alors ça impliquait qu'ils connaissent l'Ancien Testament et qu'ils connaissent d'aplomb pour qu'ils puissent savoir cette chose-là. Alors Dieu lui révélait, si vous auriez été dans tout le peuple d'Israël à l'époque, est-ce que vous croyez que chacun des enfants d'Israël savait ces choses-là? Pourquoi ils ne savaient pas? Parce qu'ils n'étudiaient pas en parole. C'est aussi simple que ça. Alors ça dit, Jérémie 25, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Et dans Daniel avait lu ça dans les Écritures, et il savait que les 70 ans étaient à leur terme. Pourquoi? Parce qu'il le voyait dans les Saintes Écritures. Mais ça disait dans le verset 12 de Jérémie 25, « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone, cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Dieu récompense toujours richement la diligence à étudier sa sainte parole. Ça, c'est un fait. Et on pourrait prendre une multitude d'autres exemples, si je vous en ai nommé seulement une. Quatrième chose, quand on se met à étudier la parole, on rencontre des difficultés. Quelles sont ces difficultés? Ce sont toujours du même ordre, l'interprétation. Mais vous en allez en droit. Pourquoi que les juristes sont toujours en train de s'obstiner puis toujours en train d'amener ça à la Cour suprême? C'est toujours des questions d'interprétation. Il y a des règles pour interpréter le droit, mais il y a aussi des règles pour interpréter les Saintes Écritures. Et la plupart des erreurs de doctrine qui existent à l'intérieur des différentes dénominations viennent sûrement du fait qu'il y a des passages qui sont mal interprétés. Alors, on va commencer par regarder quelles sont les dispositions que notre cœur devrait avoir si on veut obtenir une saine interprétation des Écritures. J'en ai 5. Le premier, le respect et l'humilité. Dans Ésaïe 66, verset 2, le Seigneur dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui craint ma parole. » Deuxième chose, l'ouverture d'esprit. Luc 24, verset 45. Le Seigneur dit « Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Nous ne devons pas, autant que possible, avoir des préjugés, des positions qu'on pourrait appeler a priori, ni de blocage sur une conception qu'on aurait acquise. Ça peut arriver qu'on ait acquis des choses mauvaises, mais si on étudie les Écritures, Dieu va faire en sorte qu'on va finir par comprendre l'erreur et on va finir par vouloir l'enlever de nos vies. Troisième disposition, c'est l'amour de la vérité. Psaume 119, verset 103. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » On se doit, comme chrétien, moi je dis que c'est impossible, si quelqu'un est un véritable chrétien, ça se peut pas qu'il n'aime pas la vérité. Il faut aimer la vérité. On aime la vérité. Et David, le psaume 119, est un merveilleux psaume pour voir jusqu'à quel point David aimait les Saintes Écritures. Quatrième, l'objectivité. Dans Malachie 2, verset 9, ça dit « Vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. » On se doit d'éviter d'interpréter la parole de Dieu à cause de certains personnages. Ça peut être un docteur, ça peut être quoi que ce soit. Ça, c'est la Bible elle-même qui est l'autorité suprême et non pas un homme. On ne doit jamais suivre un homme. On doit toujours revenir aux Saintes Écritures elles-mêmes. Et la cinquième, et non pas la moindre, c'est la patience. Jean 16, versets 12 et 13, le Seigneur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Deuxième chose, donc avoir la bonne attitude psychologique. Deuxième chose, c'est il faut respecter ce qu'on appelle les règles de l'herméneutique. Un grand mot qui vient du grec herméneo, qui signifie expliquer, interpréter, traduire. Depuis que la Bible a commencé à être étudiée, là, c'est pas longtemps, là, il y a eu toute la connaissance acquise par les Juifs eux-mêmes. Et après le Nouveau Testament, il y a eu tous les commentaires, les études. Je suis sûr que je dis la vérité en disant ça. C'est sûrement le livre qui a été le plus sondé, étudié dans le monde entier. Il est étudié, mais pas à peu près. Alors, avec le temps, il s'est développé des manières de comprendre et d'interpréter la Bible. On se doit de faire certaines choses, d'avoir des précautions face à certains dangers. Alors, l'herméneutique biblique, c'est la science qui est établie et qui classe les principes, les règles et les méthodes par lesquelles le sens des Écritures est déterminé. On va en regarder une qui est immensément importante, je dirais c'est la plus importante de toutes, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, c'est le fait que la Bible s'explique par elle-même. Elle est son propre interprète. On peut l'énoncer en ces termes. La Bible s'explique par elle-même, elle est son propre interprète. Les enseignements qui sont donnés dans divers passages des Écritures se complètent les uns les autres harmonieusement, chacun révélant un aspect différent de la vérité. Ce principe a été rappelé par Pierre dans 2 Pierre 1, chapitre 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Si on interprète un verset isolément ou indépendant de l'ensemble de ce que d'autres passages disent dans les Saintes Écritures, c'est vrai qu'on peut faire dire des choses à la Bible, tout ce qu'on veut. À peu près tout ce qu'on veut. Mais ce n'est plus vrai. Si vous prenez l'ensemble de ce que les Écritures enseignent sur un sujet, là, vous ne pouvez plus errer. Vous pouvez errer si vous prenez un verset, puis vous l'isolez de son contexte, et que vous ne tenez pas compte de ce que les Écritures enseignent sur l'ensemble des Écritures. Alors, c'est très important de se souvenir de ce principe de l'analogie de la foi. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bêtises sur les Écritures dans ma vie. Mais c'est toujours dû à ce problème-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, il n'y a pas beaucoup, mais c'est pas vraiment le but ce matin de rentrer dans les détails de ça, mais l'herméneutique a certaines règles de base. Et si on connaît bien ces choses-là et qu'on les applique d'une manière constante et régulière, on va diminuer de beaucoup les chances de mal interpréter les Écritures. Il existe des livres complets sur l'herméneutique biblique. Je vous conseille très fortement de vous acheter un bon volume qui traite de l'herméneutique, ou en anglais « Basic Bible Interpretation », et de commencer à lire ça pour voir toutes les difficultés qu'il y a, qu'on rencontre quand on veut étudier sérieusement les Saintes Écritures. On va en regarder quand même quelques-unes, juste pour vous donner une idée des principaux pièges. Alors, pour rechercher le véritable sens d'un passage des Écritures, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes. D'abord, de repérer les mots. On commence par les mots. Les mots qui peuvent avoir plusieurs sens. Si un mot peut avoir plusieurs sens, nous devons choisir parmi les diverses significations possibles. Par exemple, dans la doctrine de la grâce, une des choses qui rend le sujet difficile, par exemple, c'est le mot « monde ». Quand quelqu'un se donne la peine d'étudier un petit peu partout dans les Saintes Écritures, qu'est-ce que le mot « monde » veut dire? À ce moment-là, on démêle beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens que dès qu'ils voient le mot « monde », ils mettent dans le mot « monde » la signification qu'eux aimeraient que ça dise. Le mot « monde », il est toujours écrit dans une phrase, dans un contexte, dans un paragraphe, dans un livre et dans l'ensemble de la Bible. C'est toujours là quand on finit par comprendre. La même chose s'applique dans le droit. La même chose s'applique dans n'importe quelle science, en fait. Alors, il faut commencer par les mots. Ensuite, quel est le sens qui correspond à l'ensemble de la phrase? Si la phrase permet d'admettre plusieurs de ses sens, nous demandons alors, quel sens correspond au contexte du paragraphe pour que l'ensemble du passage ait un sens harmonieux et logique? Et ça finit pas là. Après ça, il faut monter un petit peu plus haut. L'objet général du livre. Le mot, un tel mot, écrit dans une phrase, écrit dans un paragraphe, dans quel livre il est écrit? Il est-il écrit dans Romains ou s'il est écrit dans le livre des psaumes? Le livre des psaumes, c'est de la poésie. Alors, on n'interprète pas la poésie de la même manière que l'histoire, que des livres historiques. Alors, faut avoir toutes ces choses-là à l'esprit quand on commence à vouloir interpréter les Écritures. Et aussi, quels sont les passages parallèles qui traitent du même sujet dans les Saintes Écritures? Commencez par le mot dans la phrase dans le paragraphe dans le livre dans l'ensemble de ce que la Bible dit sur le même sujet. Et là, on peut arriver, si on étudie une doctrine particulière, à avoir l'heure juste. Alors, c'est vraiment le principe de l'analogie de la foi. Et il existe des livres intéressants qui nous donnent les dangers si on ne tient pas compte des règles d'herméneutique. Par exemple, on n'interprète pas un livre poétique de la même manière qu'on interprète, une parabole. Chaque genre dans les Saintes Écritures a ses propres règles d'interprétation. Et quand on ne tient pas compte de ça, là, souvent, on aboutit à des erreurs fondamentales, et on peut même aboutir à des hérésies. Parce que si on ne tient pas compte de ce que les Écritures disent sur un même sujet, là, on découvre quelque chose dans un sujet particulier, on se dit « Ah, la Bible enseigne ça! » Un instant, elle enseigne ça, mais tu as regardé tout partout ce qui parle du même sujet. Quand tu vas avoir regardé tout partout ce qui parle du même sujet, là, tu vas avoir l'heure juste sur le sujet sur lequel tu es en train d'étudier. Quelles sont les applications qu'on peut faire de ce qu'on vient de voir ce matin? Parce que si on assiste à des assemblées, on écoute des sermons, et que l'effet que ça nous fait, c'est que ça passe par une oreille, puis ça sort par l'autre. Le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas être des auditeurs oublieux. On a tous tendance à être des auditeurs oublieux. Si le Seigneur veut vous passer un message ce matin, pensez-vous que c'est pour rien? Pensez-vous que c'est parce qu'il n'y a rien changé dans vos vies? Et s'il y a de quoi changer dans vos vies, quand vous allez commencer à le faire? On a toujours tendance à reporter au lendemain. La procrastination. On remet au lendemain. Ah, demain, je vais commencer. Puis quand tu arrives au lendemain, ah, ben demain, je vais commencer. Là, ça fait 3 ans que tu parles de ça, puis tu es encore rendu à remettre ça au lendemain. Si tu te rends compte que Dieu te parle, il veut changer quelque chose dans ta vie, peut-être que la raison pour laquelle tu n'es pas capable de t'établir un nouvel horaire ou de te consacrer une plage de temps à l'étude de la parole de Dieu, c'est peut-être parce que ton horaire est trop chargé, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'affaires mondaines dans ta vie. Je pense que si quelqu'un veut rentrer ça dans son horaire et obéir au Seigneur, il se doit de lui implorer sa miséricorde et lui demander la grâce de te donner la discipline de l'établir. Parce que sinon, vous allez sortir et dire, « Ah! Demain, je commence à étudier la Bible. » Demain, OK, ça commence mal. C'est aujourd'hui. Il faut que la personne qui veut changer quelque chose dans sa vie se dise, « C'est aujourd'hui que ça commence à changer. » À compter d'aujourd'hui, que vais-je faire pour obéir au commandement du Seigneur qui nous dit d'étudier sa sainte parole? Bien entendu, nos résolutions doivent se traduire en actions concrètes et quotidiennes. N'oublions pas de prier pour cette grâce, parce que c'est le Seigneur qui peut nous l'accorder. Le Seigneur nous connaît à la perfection, il sait comment on est, et si on lui demande qu'on est sincère, on se dit, « Seigneur, je veux trouver du temps dans ma journée, je veux vraiment te consacrer du temps pour étudier ta parole. Seigneur, donne-moi la discipline de l'instaurer dans ma vie d'une manière concrète et régulière. » Pensez-vous que si quelqu'un met ça en application dans sa vie et qu'il se met à étudier sa Bible tous les jours, pour tous les jours qu'il reste à vivre, disons qu'il vous restera 25 ans à vivre, que cette chose-là n'aura pas un impact formidable dans vos vies? Moi, j'en suis pleinement convaincu. Alors, je vous dirai aussi, par la grâce de Dieu, j'espère que vous pourrez dire après moi, je veux me familiariser avec la science biblique de l'herméneutique et de me procurer un bon livre sur le sujet afin d'avancer dans mes connaissances de cette discipline. Que notre grand Dieu soit loué, béni et adoré éternellement. Amen. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous connais, tu sais jusqu'à quel point nous sommes négligents, nous sommes paresseux. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, pour établir quoi que ce soit de nouveau dans nos vies qui a pour but de nous rapprocher de toi, de la connaissance de ta personne et de ton œuvre, de nous connaître nous-mêmes et de connaître l'ensemble des vérités que tu nous enseignes dans les Saintes Écritures. Seigneur, nous avons besoin de discipline, nous avons besoin de grâce que tu nous accordes, de changer, de transformer des choses dans nos vies. Et nous savons, Seigneur, que si tu nous accordes ces choses, si nous les désirons assez ardemment, tu nous les accorderas et que ces choses transformeront nos vies et t'apporteront honneur et gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.